Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Deux derbies, un prix et un demi, c'est le menu de ce lundi. Premier derby, un match de dingo comme on en voit qu'en Première Ligue, c'est mon avis et je le partage avec moi-même et sans doute Salim Bongali.
Bonjour Olivier, ben oui c'est la première, c'est le meilleur championnat du monde, c'est normal non?
Salut Salim. City United samedi de 2-0 et un titre en poche à 3-2 et des doutes plein la tête pour les Citizens avec en prime dans le camp d'en face un super Pogba. Des mois qu'on n'avait pas vu ça, contrairement à Marc Libra qui lui vient toutes les semaines. Bienvenue Toulonnais.
Bonjour, bonjour à tous. Vous n'avez pas vu le match de Marseille-Montpellier pour un gros match?
Non, je me suis endormi. Pourtant, je travaillais hier. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la Ligue 1. Enfin, finalement on en parlera mais un peu plus tard. Second derby, le madrilène, pas moins de 26 mondialistes potentiel sur le terrain ou le banc hier après-midi. Deux grands buteurs pour un nul un partout qui recale le Real à une modeste quatrième place d'une Liga archi dominée par le Barça. 38 matchs sans défaite, record de la Real Sociedad égalé. C'était en 79-80. Freddy Kula n'était même pas né. D'ailleurs, il n'est même pas là. Il est en retard. Il est à l'heure de Libreville, sans doute. À l'heure africaine. On l'attend. Il finira par arriver, le Gabonais. Il en fallait bien dans ce studio de Gabonais car il n'y en a pas dans la liste des 13 finalistes du prix RFI Marc-Vivien Fauet, RFI France 24, pardon, j'oubliais, Marc-Vivien Fauet, du meilleur joueur africain de Ligue 1, vivement que Denis Bouanga monte avec Lorient, mais là encore, c'est pas gagné, c'est comme de voir Freddy Kula à l'heure. 13 noms qui deviendront 3 début mai, puis 1 le 14, jour de la remise du trophée à l'heureux élu. Qui succédera à l'Ivoirien Jean-Michel Seri, candidat d'ailleurs à sa propre succession? Deux hommes dans cette maison ont une petite idée sur la question. Les grands manitous de ce prix RFI France 24, Marc-Vivien Fauet, David Calfa et leur effet Valente. Faute de moyens, on n'a pu en faire venir qu'un. Leur effet sera donc avec nous, mesdames, messieurs, d'ici un petit quart d'heure. Une obligation, si je ne veux pas être démis, comme le malheureux Vahid Halilhodžić, salement viré ce week-end, c'est le mot. À la surprise générale, le franco-bosnien écarté de la tête de la sélection japonaise à 2 mois d'une Coupe du Monde pour laquelle il avait qualifié les Samouraïs Blue. Un coup d'autant plus dur que c'est la deuxième fois que cela lui arrive, 8 ans après la Côte d'Ivoire. Allez, la dame, c'est sûr, est à l'écoute. Louis Laforgue a tout calé, Guillaume Ploquin, on peut y aller.
Sanchez, good turn, chest it down, Pogba with a chance, hope for Manchester United, and they score early in the second half, City 2, United 1. Beautiful ball, Pogba again, unbelievable, 2 in 2 minutes, United from 2 down, 2 from Paul Pogba, well he might have blue hair, but he's got a red heart, 2-2.
Franchement, messieurs, après 30 minutes de jeu, samedi, quand City menait 2-0 grâce à Kompany et Gundogan, le titre était dans la poche, non Salim?
On s'est même dit, oh, va y avoir un troisième but, un quatrième but, un cinquième but.
Si 4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à redire.
Oui, c'est ça. Tant la domination de City a été incroyable. Et je vais même être totalement transparent avec vous. Donc, à la rédaction de SFR Sport, diffuseur de la Première Ligue en France, nous, on était en train de se dire, bon, là, il y a 2-0, donc City va être champion. On va commencer par ça, puisque après, je présentais mon émission juste après le match. Donc, on visualisait déjà, soyons honnêtes, soyons totalement transparents. Et puis il y a eu cette deuxième période absolument folle.
Alors je peux vous dire que David Calfa, dont je parlais tout à l'heure, il travaillait aussi samedi et que son papier était écrit.
Et forcément,
à la mi-temps, obligé de tout recommencer. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que Marc, vous étiez aussi comme nous tous, parce que c'était quand même le match du week-end.
Je pense que c'est le fautif, c'est Liverpool. Je pense que Liverpool a fait beaucoup de mal à cette équipe de City.
Donc 3 jours avant.
3 jours avant, de 35 minutes de folie. Et je pense que là, sur la première période, alors certes, il y a un grand Doréa, il y a peut-être un petit peu de manque de réussite parce qu'il n'y a que 2-0, mais jusqu'à la frappe de Pogba 48 ou 49e, il ne se passe rien. Ils ont pris ce but, ils ont commencé à s'effriter. 3 minutes, 4 minutes après, il y a le but de Pogba, ça fait 2-2. Et là, c'est plus la même équipe. C'est bizarre, c'est plus la même équipe. Je dis ça parce que peut-être que Liverpool, dans la tête, en se disant, bon, quoi qu'il arrive, United, on va pas franchement les prendre au sérieux. De Bruyne, tu restes sur le banc. Agüero, tu restes sur le banc. Et finalement, on va se concentrer sur Liverpool parce qu'ils nous ont, on s'attendait pas à ça. Personne s'attendait à ce qu'ils en prennent autant et que pendant 30 minutes, ils en prennent 3-0. Et peut-être que mentalement dans la tête, et une fois que le mal est fait, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2 buts et le 3e arrive, Il se passe plus rien, quoi. Et alors, certes, il y a une agression, il y a un pénalty qui doit être sifflé, c'est pas sifflé.
Sur Agüero.
Il y a De Rea qui fait l'arrêt qui va bien, mais je pense que dans les têtes avant le match, ils avaient plus la tête à Liverpool plutôt qu'à United. Et dans un derby en Angleterre, on a vu qui a pu être le plus fort.
Le pénalty non sifflé sur Agüero, c'est le seul point commun qu'on pourrait trouver avec Montpellier-Marseille.
Exactement.
Marseille-Montpellier, le pénalty oublié sur le c'est vraiment le seul point commun, c'était pour faire une petite allusion à la Ligue 1.
Ouais, c'est vrai qu'Agüero, là, sur le coup, il aurait pu être gravement blessé. Ouais. Jung aurait dû écoper d'un rouge, hein, très clairement sur cette action. L'arbitre n'a même pas sifflé de faute pour le coup. Mais c'est vrai que moi, je donnerais un autre adversaire. Alors, on se rejoint finalement, et un autre coupable, Manchester City lui-même. Vous menez 2-0, donc vous avez des opportunités affolantes quand même. Vous dominez et inconsciemment, vous dites, mais on domine tellement, on est tranquille en fait. À la moindre accélération, on a une opportunité. Il y a une opportunité de 3-0 juste
Gundogan.
Après cette opportunité de Pogba, exactement quand Gundogan touche la barre transversale à la 50-51e minute. C'est juste avant la réduction d'écart, signé Pogba justement. On domine tellement, on est tranquille, on est serein, on peut se projeter en partie sur Liverpool aussi. Les City et justement son propre adversaire sur cette action.
Alors, je vous propose d'écouter Pep Guardiola. Après, on va débattre. Je vous citerai une partie d'un tweet. Vous devrez réagir à un tweet de Vincent Duluc de samedi soir après la rencontre. D'abord, on écoute Pep Guardiola, l'entraîneur de City, et donc pas très heureux samedi.
Bien sûr qu'on voulait gagner ce match. Je ne vais pas le nier. Mais on savait exactement quelle équipe on affrontait. Ils sont deuxièmes et font un très bon championnat. J'essaye d'analyser ce qui s'est passé. Je suis désolé pour les supporters. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas se plaindre de ce que l'on a fait. C'était un bon match. Je savais que notre adversaire ne resterait pas 90 minutes sans réagir. On a fait une première période rêvée. On n'a pas concédé un seul tir cadré. Mais ils ont un bon entraîneur qui leur a peut-être dit à la mi-temps, « Les gars, on doit en faire plus. » On a couru, on s'est battu, on a tout donné.
Et Guardiola qui rend hommage à Mourinho. On a vu la collade hein, quand même entre les deux hommes. Il y a beaucoup de respect. C'est bien. C'est toujours bien de voir ces images-là, même si c'est peut-être pas si intense que ça.
Surtout que c'était très froid et on en parlera avec le cas Pogba justement la veille avec les fameuses conférences de presse. Mourinho qui lui-même avait été très froid avec des journalistes en face de lui et lui qui était très sec dans ses réponses. Pep Guardiola qui a fait sa fameuse sortie sur Pogba. On en parlera. Enfin bref, on se disait oh là le quand ils vont se voir, ça va être très chaud. Au final, on va dire une accolade assez froide avant le match, en revanche après la rencontre. Alors certes Mourinho a gagné, Guardiola a perdu, mais malgré tout on les voit échanger, discuter très simplement, mais tout de même. Donc oui, ça a été relativement respectueux.
Alors on va reparler de Mourinho, on l'entendra même, mais d'abord donc on vient d'entendre Pep Guardiola, ce tweet de Vincent Duluc. Après Liverpool, l'idée que Guardiola a construit une équipe pour la domination et pas pour la difficulté. Mais il a tout à fait raison.
Mais c'est en fait, et je vais même compléter ce propos, c'était déjà le cas à Barcelone. À Barcelone, vous aviez une équipe donc qui archi-dominait lorsque Pep Guardiola était là, et même par la suite d'ailleurs. Mais lorsqu'il y avait ces rares difficultés, rappelez-vous de ces fameuses rencontres de Ligue des Champions, notamment ce fameux Barça-Chelsea, lorsque Michael Essien marque un but splendide et Iniesta égalise à la dernière seconde. Le Barça est en méga difficulté. Il y a d'autres rencontres qu'on pourrait prendre comme ça en exemple. Et City cette année, face à Liverpool, cette fameuse défaite 4-3, face à Palace 0-0, où Palace a des opportunités de gagner avec un pénalty à la dernière seconde. Quand City est bizarrement en difficulté, cette année on l'a vu aussi dans les victoires de 2-1, en difficulté c'est étonnant, mais City, oui, on peut mettre cette équipe en difficulté et elle se met toute seule en difficulté. En revanche, quand on laisse la balle à City, c'est là, c'est le double danger. D'un côté vous lui donnez le ballon et de l'autre en fait vous lui donnez toutes les munitions pour pouvoir dominer. Et oui, City sait dominer mais ne sait pas être dominé, c'est ça en fait.
On rappelle que Vincent Duluc, c'est bien sûr notre confrère de l'équipe, le quotidien sportif français. Votre avis, Marc Libra, sur cette défaite inattendue et sur ce que dit Vincent Duluc, la domination pour City et pas la difficulté.
Cette saison, il y a eu au mois d'octobre ou novembre, je crois, 3-4 fois, ils marquent dans les 92e. Ils arrivent à faire la différence, ils arrivent à... Je suis pas vraiment d'accord, j'adore Vincent Duluc, je suis souvent d'accord, et là je suis pas trop d'accord, parce que je pense que cette équipe-là, elle sait souffrir, elle l'a montré, mais je pense qu'ils ont fait... C'est pas preuve de suffisance, mais ils s'attendaient pas à ça. Parce que, dès le départ, de pas avoir De Bruyne, de pas avoir Agüero, de dire, bon, on va faire tourner, enfin, c'est en plus quand on reçoit
après, on
United
avec des joueurs qui sont pas lambda quand même, Gundogan, Sterling,
complètement mais à City, donc du coup on se dit et je pense
et on a au coup d'envoi 16 points d'avance, c'est ça, il en reste parce 13 hein, quand même d'avance.
Faut bien se dire que ce match là le plus important pour eux c'est maintenant Liverpool, parce que ça ne changera pas le championnat. Oui. Ils seront champions quoi qu'il arrive.
Oui, ça a juste reculé, retardé l'échéance.
Exactement, donc il y a peut-être un certain détachement par rapport aux joueurs qui a fait que on se dit ça va aller, c'est, mais après c'est un derby et on les a pas forcément pris au sérieux du côté d'United. Et United, quand on les laisse un petit peu jouer, surtout Alexis Sanchez qui revient pour moi à son meilleur niveau, qui a été très bon, qui a été passeur à chaque fois, je me dis finalement cette équipe là mais attention de pas tout perdre. Alors il y aura le championnat, mais la Ligue des Champions, parce que personne, en tout cas personne, ne voyait City se faire accrocher jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on les voyait, moi je les voyais vraiment, pour moi ils sont capables d'aller la gagner cette année. Et le fait que Liverpool en 30 minutes les malmène comme ça, là ça montre autre chose qu'on ne s'attendait pas forcément.
Oui Marc, je vais prolonger votre propos. Évidemment, tout d'un coup, l'idée est partie de ma tête là. Comme quoi, ça arrive.
Ah, ça
c'est
arrive,
direct.
Ça m'arrive.
C'est pas grave. Ça va revenir.
Ça m'arrive.
Moi, je vous proposais de rendre quand même hommage à Mourinho. Il ne va pas gagner grand-chose cette saison. A priori, a-t-il gagné
Non, mais il pourrait gagner une FA Cup. Oui, une FA Cup. Voilà. En demi-finale face à Tottenham.
Ce qui serait déjà quand même titre. En tout cas, il ne gagnera rien d'autre et peut-être rien du tout. Mais c'est un beau succès pour l'honneur, parce que il en avait besoin. Il est allé battre Pep Guardiola. Guardiola, dans un derby. Alors on sait que City était allé gagner à United. C'est la réponse du berger à la bergère.
Juste Mourinho, alors on le critique à juste titre par rapport à la manière de jouer depuis le début de saison, etc. Je rappelle quand même que United a donc battu City, on l'a dit, a battu Liverpool 2-1, a battu Chelsea, a battu Arsenal, a battu Tottenham. Enfin, à un moment donné, oui, Mourinho, c'est pas beau. Oui, Mourinho, s'attend à beaucoup plus parce que vous avez des joueurs de qualité. Vous avez un 11, un 18, 22 joueurs même de grande qualité. Mais à un moment donné, les faits sont là. Alors, en fait, le gros couac, comme ça pourrait l'être peut-être pour Pep Guardiola en Ligue des Champions en cas d'élimination, le couac, ça a été l'élimination face à Séville, en fait, d'être éliminé ainsi en huitième de finale à domicile. Mais sinon, pardonnez-moi, mais à côté de ça, vous allez finir possiblement deuxième du championnat, donc ce qui est déjà un bon résultat face à ce City qui est stratosphérique. Et puis à côté de ça, vous avez peut-être une FA Cup, c'est tout à fait possible. Enfin, à un moment donné, la saison est pas ridicule non plus. Alors oui, on s'attend à plus, mais c'est loin d'être risible.
Alors parlons de Paul Pogba. Et soudain, la lumière fut. Vraiment, on attendait depuis un moment, on l'avait quand même un peu entreaperçu à Saint-Pétersbourg avec l'équipe de France, mais face à une équipe de Ligue 2, hein, on va dire ça comme ça, la Russie on avait dit à l'époque, ça jouerait même pas la montée en Ligue 1, Lorient a plus de chance. Donc Pogba, 2 buts en 3 minutes, on écoute le mou, hein, José Mourinho nous parlait du français si inconstant, si énervant et si plein de talent.
Je sais que Paul Pogba a très bien travaillé la semaine dernière, particulièrement mardi et mercredi. Il a réalisé 2 très bonnes séances et ce match en découle. Bien sûr, 2 buts pour 1 milieu de terrain dans un grand match, cela restera dans la mémoire des supporters. Il a besoin de cette confiance car il sait, et je sais, qu'il n'a pas été au niveau de ce qu'on attend de lui. Mais il s'améliore. Déjà contre Swansea, j'étais content. Et cette fois encore, lui, Herrera et Matic ont été géniaux pendant les 90 minutes de la rencontre.
Ben, le voilà réconcilié alors Paul Pogba avec José Mourinho.
Semble-t-il, tout va bien. Ben oui, ça lui permet, en tout cas le français a permis au portugais de s'imposer à City. Mais comme quoi parfois le football va vite, et c'est Marc Libra qui va encore plus nous le confirmer. Dans ce match, la première période de Paul Pogba est catastrophique, comme l'ensemble des joueurs de United d'ailleurs.
Il se passe rien.
Rien de la part de Pogba comme de l'ensemble des joueurs de United. Début de seconde période, il démarre ou tente à un moment un dribble qui est loupé, il tente une frappe enveloppée du pied gauche bien captée par Ederson, on se dit bon, ok. Et effectivement, il y a cette passe de la part d'Herrera, passe de la poitrine magnifique dans la course de Pogba et de buts à 1. Juste après la rencontre, chez nos confrères de Sky Sports, Thierry Henry, qui est consultant chez nos confrères anglais, discute avec Pogba et dit: alors sur le premier but, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, on te voit tout d'un coup dans la surface de l'opération. Et là, Pogba lui dit: oui, en fait, je sais pas ce que je fais là, je tente, mais j'avais pas trop réfléchi. Comme quoi, parfois, ça joue à rien. Il est là par hasard et récupère cette balle et il y a but, et puis tout d'un coup il y a ce déclenchement et tout d'un coup les Red Devils deviennent les Red Devils, c'est vrai diable rouge, mais c'est le hasard qui a fait que Pogba est devenu tout d'un coup bon en fait dans cette partie.
Mieux vaut tard que jamais cette saison. Finalement, s'il s'est reposé pendant quelques mois et qu'il arrive en forme maintenant et qu'il est en pleine bourre au mois de juin,
pourquoi pas,
la France ne s'en plaindra pas.
Mais pour la France, je suis ravi. Après, je pense que United, ils peuvent quand même faire un petit peu la gueule
oui, parce que la France eux a priori s'en moquent un peu.
Ouais, non après on se réfère sur la partie, il a été très bon. bon. Je crois qu'il y a surtout Alexis Sanchez qui, j'espère, va trouver ses marques et faut qu'il est passeur. Enfin, c'est simplement.
Il a été magnifique.
Il a été énormissime. Ouais. Après, dans pas longtemps, on va élire le meilleur joueur anglais de la saison. J'aurais aimé qu'on dise c'est Pogba et malheureusement encore cette année, ça sera pas lui.
Non. Donc non, ce sera Mohamed Salah. Nous, on est tous d'accord là-dessus.
Voilà, ça sera sûrement Mohamed Salah. Ça peut être Harry Kane.
Élu joueur du mois, hein, Salah pour la 4e fois sur les.
Ouais,
ou
ça peut être De Bruyne. Donc j'aurais aimé qu'on me dise Pogba. Il concourt pour ça. Donc là, si on dit ça y est, il est réconcilié au vu de la saison, c'est très bien qu'il ait fait ça. C'est vrai qu'il va marquer les esprits parce qu'on se rappellera 30 ans de ce match-là, mais sur la saison, c'est trop peu.
Et juste pour compléter également, quand on évoquait le deuxième but aussi de Pogba dans cette partie, il l'a dit, hein, là encore chez nos confrères, dans un milieu à 3, ça me permet d'aller un peu plus de l'avant. Et donc, c'est ce qu'il a fait sur le deuxième but en étant dans cette surface et recevoir la balle
du pied
de la tête.
Hein,
voilà, exactement. Le milieu à 3 pour Didier Deschamps. Ben, Didier, mets-moi dans un milieu à 3, je serai meilleur.
Alors pour clore avec ce championnat anglais,
le meilleur du monde.
En tout cas, c'était un très beau match effectivement samedi. On rappelle que Tottenham a profité pleinement du derby de la Mersey, Liverpool Everton 0-0, enfin Everton Liverpool. Tottenham a gagné à Stoke et donc revenu à hauteur de Liverpool, donc à la 3e place, juste devant
l'équipe
la différence de buts.
Liverpool, ils avaient fait tourner aussi.
Ouais, là,
et puis pour la Ligue Europa, puisqu'il n'y a à peu près que cela à espérer, Chelsea a fait match nul contre West Ham hier, alors qu'Arsenal a battu Southampton 3-2. Ces équipes sont très très loin, hein. 10 longueurs de Liverpool et Tottenham, 5e et 6e. Allez, on passe à l'autre derby du week-end.
Sindro para Cristiano. Que buena pelota para Vitolo, sale Keylor, le pega a Antoine, gol,
alors qu'on me dit que Freddy Coulet est le seul parisien qui croit encore que le RERC fonctionne aujourd'hui, donc il arrivera demain, c'est pas grave, on accueille le réfé, parce que bah, quand même, quand on parle d'Espagne et de Liga, il faut avoir le réfé.
Le maître, le championnat du monde, effectivement.
Ah bon, bah c'est Salim qui fait le classement maintenant.
Ouais, c'est lui qui décide.
Ou troisième peut-être, juste.
Merci d'être avec nous, en tout cas, réfé, d'un derby à l'autre, de samedi à dimanche, donc on était à Madrid, où s'est donc déroulé un certain Real Atlético. Bon, c'est un derby pas tout à fait aussi emballant que celui dont on vient de parler, il faut être honnête, mais quand même, ça reste un derby qui compte, et c'était un beau match, le deuxième match le plus intéressant du week-end.
C'était un beau match assez intéressant, avec un Real Madrid qui avait vraiment envie de gagner, qui avait envie d'essayer d'accrocher cette deuxième place qui lui échappe vraiment. Et donc, un Atlético fidèle à lui-même, qui a bien défendu et qui a joué crânement sa chance d'un certain moment clé du match et qui aurait même pu l'emporter parce qu'il y a eu deux ou trois situations très chaudes en deuxième mi-temps après les buts de Cristiano Ronaldo. Et finalement, un résultat qui fait l'affaire de l'Atlético, qui garde ses 4 points d'avance sur le Real, qui fait l'affaire de Barcelone, qui reste loin devant et qui fait pas du tout l'affaire du Real Madrid, qui du coup est rétrogradé à la 4e place parce que Valence a profité de l'occasion pour lui passer devant.
Ah bah merci Réfé pour ce résumé, vous pouvez retourner évacuer vos occupations, on va faire une petite belote. On accueille quand même au passage, il a trouvé
le
chemin, la lumière. Freddy Coulat est avec nous, mesdames, messieurs, celui qui n'était pas né, on l'a dit dans les titres, en 79-80, lors de la précédente série monumentale de la Real Sociedad, 38 matchs sans défaite, record égalé donc par le Barça, on va en parler dans quelques minutes.
Il
n'y
a pas grand monde
minutes.
Qui était né à ce 79-80.
Voilà. Réfé, on va peut-être le sortir.
Ah oui,
aussi.
Je pense que là, entre le meilleur championnat du monde et ça, il mérite un carton rouge.
Un mot sur Ronaldo, présent quand même toujours et encore dans les matchs qui comptent cette semaine. C'était sa semaine, le retourné phénoménal, la volée. Bon, elle n'est pas tout à fait aussi limpide, mais il faut la mettre, cette volée. Hein.
Ah, mais elle est magnifique.
Elle est sublime.
Elle part, elle vient un petit peu. Elle n'est pas aussi fluide, limpide.
Non, mais Olivier Pron, voilà, il veut des buts à chaque fois.
Évidemment.
Vous savez, Godin, je crois, qui est juste devant lui, qui le masque, donc c'est pas évident du tout.
Et c'était la semaine du retour, pour ceux qui sont fans des BD, c'était la semaine du retour d'Olivier Tom en France. Et puis, figurez-vous qu'il a fait 2 reprises de volée façon Olivier Tom.
C'est ça. Oui, c'est vrai.
C'était exactement ça. Ce qu'il a fait, Cristiano, enfin, ce but. Évidemment, on parle de la Juve et d'ailleurs, les deux buts. Hein, le premier premier but déjà avait été prodigieux, cet extérieur du pied droit, mais là cette reprise de volée, et on sent, enfin oui, la confiance.
On revient la semaine dernière là.
Non mais pour évoquer surtout ce week-end, la confiance qu'on évoque régulièrement à Cristiano Ronaldo, lui il a pas besoin d'être, enfin s'il est piqué d'ailleurs, il va encore plus montrer qu'il est toujours présent. Ben là il ne fait que ça en fait, même si on le critique un tout petit peu. Et les gars, je suis toujours là, vous inquiétez pas, même à 33 balais, je continue de marquer mes buts, et il a encore fait.
On peut ne pas aimer le personnage, mais le joueur est emballant, et ce qu'il y a de formidable, et là je me tourne vraiment vers Marc Libra, on ne cesse de le dire, quelle chance on a d'avoir Messi, Ronaldo, l'un a marqué un triplé samedi, il est là, lui aussi, quand on a besoin de lui, Ronaldo lui répond, c'est quand même extraordinaire le spectacle qu'il nous offre semaine après semaine.
Mais surtout que ça fait bientôt 10 ans que ça dure.
Ouais.
C'est, il va falloir se rendre compte que
qu'est-ce
ça fait.
Qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont arrêter?
Ben, je ne sais pas. Si on compte sur Neymar, j'espère qu'il y aura autre chose, parce que ça soit Mbappé peut-être, ou d'autres joueurs comme Harry Kane. Mais là, ou,
pour rester dans la dynamique depuis le début, il n'était pas là, Denis Bouanga?
Ouais, peut-être. Ah ouais, pas mal.
Pour ceux qui sont nés trop tard, on a eu une époque où on avait Cannavaro qui gagnait les ballons d'or. Ou
des, oui, Mathias Sammer aussi. Ouais, ça,
ouais. Mais la question que pose Olivier est intéressante. On devrait peut-être demander à LRF. À l'époque, quand Maradona a raccroché, c'était quoi après l'après Maradona? C'est un peu ce qu'on vit. Peut-être qu'il y avait d'autres protagonistes entre temps.
Mais on a vu arriver Zidane.
Justement, la question est importante. C'est qu'après, il y aura certainement un relais qui ne sera pas aussi important. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance? RFA, on est témoin, vous en êtes témoin, vous qui allez souvent en Afrique, Olivier, il y a une sorte d'antagonisme entre Africains. Quand vous arrivez dans une famille, on vous demande toujours Barça ou Real, Ronaldo ou Messi. C'est incroyable. Mais en même temps, les gens commencent à se rendre compte, en fait, ce sont deux anges, ce sont deux extraterrestres. L'un, c'est un Messi, c'est touché. Il y a toujours un rapport à la divinité. Vous connaissez l'Afrique. Et l'autre, c'est Christ, c'est Jésus. On a ce rapport à la divinité qui fait que les deux sont considérés comme des dieux dans le foot.
Ouais, c'est comme dirait Guillaume Ploquin, Beatles ou Rolling Stones.
Exactement.
Les deux. Ronaldo, c'est quand même 23 buts en 24 matchs de Ligue 1. Je crois même, à peu près, alors les statistiques, tout le monde les interprète, 24 buts sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Alors le problème pour le Real, c'est que juste après cette ouverture du score, il y a eu l'égalisation d'Antoine Griezmann, 200e match avec les Colchoneros, le jour de l'anniversaire de sa fille, Mia, il lui a rendu hommage. 27 matchs en Ligue 1 cette saison, 18 buts, il est là, et lui aussi, on le disait pour Paul Pogba, mais c'est vrai, il remarque à nouveau, et à 2 mois de la Coupe du Monde, c'est plutôt bon signe.
Ouais, mais je pense qu'aussi, il y avait une fatigue aussi physique, il y avait des déclarations en fait en début de saison, où il s'est un petit peu par rapport à
même United, à la fin de saison dernière,
voilà, il avait annoncé un petit peu des choses qui l'ont peut-être dépassé.
C'est ça.
Après, ça reste un buteur. Ce que demande Simeone est très exigeant sur le terrain. Il faut être au top. On peut pas avoir mal quelque part, parce que encore hier, ils sont capables de vous faire du mal, mais ils sont capables aussi de vous perturber, d'aller vous gêner. C'est une équipe qui demande beaucoup d'efforts, qui demande énormément. Il a récupéré tout son jus, toute sa vie actuellement. Donc c'est super intéressant pour nous. Mais dans son passage à vide, il marquait moins, mais il participe quand même au jeu. Il est quand même présent.
On a vu au final quelques joueurs, on parlait de Cristiano Ronaldo il y a quelques instants, qui a eu donc ce fameux passage à vide en début de saison.
Mais ils ont
Antoine
tous.
Griezmann également. Bref, les grands joueurs des grands clubs, vous savez, ces grands clubs qui au final se préparent souvent pour les deuxièmes parties de saison là. À l'Atletico, vous allez
cette
dire
année particulièrement parce qu'il y a une Coupe du Monde même.
C'est ça, en plus.
Il y a même une troisième partie cette année.
C'est ça. Alors l'Atletico, vous allez me dire, a été reversé en Ligue Europa, mais avec l'ambition de gagner évidemment pour l'Atletico avec cette victoire en 2-0 au match aller face au Sporting. Bref, tous ces joueurs, comme par hasard, sont bien en seconde partie de saison. Griezmann, Cristiano, on pourrait en citer d'autres. Ils sont tous là, en fait.
Et Griezmann fait PSG, les joueurs étaient en forme au début de saison, et là, c'est moins bien.
Ah oui, mais je parlais des grands clubs.
Ce que dit Salim est important, surtout quand on refait une rétrospective, on voit comment le Wanda Metropolitano sifflait Antoine Griezmann. Souvenez-vous, avec l'épisode, il devait partir, de pas partir. Ensuite, il était moins performant. Cet Atlético qui jouait vraiment moins bien, on avait l'impression que c'était du boring, comme disent les Anglais. Et là, tout à coup, ils ont retrouvé le grand Griezmann qui, lui, a fait des différences, même contre le Real de Madrid, et avec une telle assurance.
Faut penser à Diego Costa, qui lui a apporté énormément de puissance. Diego Costa, on peut dire ce qu'on veut. Regardez à Chelsea.
Il lui rend hommage d'ailleurs.
Ah d'accord.
Mais il lui rend hommage. Non, mais c'est vrai. Il attire.
Mais vous savez, quand vous avez un Diego Costa, à l'époque de Brandao, on parle de grandes équipes, Brandao, Marseille, quand même, pour préciser.
Il a marqué du dos à l'Inter.
C'était la petite parenthèse.
Non, mais il épuise les défenseurs. Diego Costa, il fait un travail.
Il ne s'arrête jamais. Ibra a profité d'être meilleur buteur parce qu'un Cavani vous percute et il ne s'arrête jamais. Donc, ça, il faut le reconnaître. Et Griezmann, Paul Pogba demande un 4-3-3. Par contre, Griezmann, 4-4-2, ça m'intéresse, puisque s'il a
joueur capable de faire, de pilonner, d'aller faire les efforts. Donc voilà.
Il est fort, même contre le Real, et j'ai entendu il y a quelques secondes, surtout contre le Real, il a marqué 6 buts, c'est l'un des plus prolifiques buteurs contre la maison madrilène, la maison merengue. On écoute l'avis de Zidane, content pour les Bleus de voir Griezmann fort, moins pour lui et les siens hier.
C'est bien pour lui qui est marqué, c'est pas bien pour moi, pour notre équipe, c'est tout. Mais je valorise rien du tout, je suis pas son entraîneur. C'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, et c'est bien pour leur équipe et pour lui, mais pas pour moi.
C'était rigolo, c'était amusant. Toujours sympa d'entendre Zinedine Zidane rire, mais
peut-être
c'est vrai qu'il
dira dans quelques temps. Mais si, c'est bien aussi pour moi, puisque je suis en train de sélectionner l'équipe de France.
Ouais, de plus en plus.
Ou peut-être
que c'est mon joueur.
Venir aussi
c'est
mon joueur.
Oui, aussi, c'est vrai.
Non, mais Zidane devient de plus en plus, je pense, il devient de plus en plus tranchant dans ses raisonnements, notamment avec l'histoire de la haie d'honneur. Il devient de plus en plus direct avec les journalistes en leur disant, voilà, c'est ma décision, je décide ceci. Depuis d'ailleurs l'arrivée du gardien qui devait venir au Real de Madrid, il est de plus en plus direct. Et là, notamment, il donne un avis sur les joueurs.
Il a besoin de décoder. La haie d'honneur, c'est l'histoire que le Real ne veut pas faire la haie d'honneur à Barcelone.
Parce qu'il n'avait pas fait
quand
après
il sera champion.
Parce que eux-mêmes ne l'avaient pas fait quand champion. Et les uns disent que c'est pas la même. Bon, bref, on aura l'occasion d'en reparler.
Jean-Luc Lahaye, je croyais qu'il parlait.
Espagnolo-espagnol. Bref, ce nul, en tout cas, n'arrange pas les madrilènes. L'Atlético est toujours deuxième à 11 longueurs du Barça, mais le Real est doublé par Valence, hein, qui s'est imposé hier. Bon, ça se passe à 15 points quand même des Blaugrana, un Barça intouchable. Je sais que leur effet boit mes paroles, donc j'en profite. Triplé
c'est
de Messi, donc
l'augmentation là.
35 buts, 29 en Liga, 6 en Ligue des Champions. Donc on l'a dit, 3 samedi, 38 matchs sans défaite en Liga, série en cours. Hein, ça faisait donc, je fais mes calculs, 38 ans que ça n'était pas arrivé. Leur effet, que dire de plus, vous êtes régalé. Je suis même pas sûr que vous êtes régalé, parce qu'on peut pas dire que ce Barça-là, paradoxalement, soit régalant. Il est simplement cliniquement efficace.
La première mi-temps a été exceptionnelle. Elle était vraiment très très bien contre Leganés. Ça a été un spectacle. Ça allait très vite. Ça débarquait de partout. On a même vu Dembélé qui a beaucoup travaillé, parce qu'il y avait beaucoup de remplacements, de turnover dans cette équipe. Et donc, c'était assez intéressant. Après les deux premiers buts de Barcelone, et ils ont levé le pied. Il y a une saison qui est très longue pour eux. Donc, on a vu les gagner, se sortir la tête, etc. Finalement, Messi a mis tout le monde d'accord en fin de match. Mais c'est un Barcelone qui doit un peu gérer ses efforts aussi, parce qu'ils sont avec le Bayern, c'est la seule équipe qui est encore présente dans toutes les compétitions, qui peut réussir le triplé
championnat, coupe et Ligue des Champions.
Donc il faut mesurer un peu les efforts. Il y a une finale des Coupes d'Espagne dans quelques jours. Enfin, il y a
ce sera contre
Séville.
Donc qui plonge un peu, hein, Séville par contre.
Disons que c'est des places mal, on va dire.
Oui, effectivement, puisque Séville, je regarde, oui, défaite 4-0 au Celta Vigo, ouais. c'était également samedi. Séville qui est maintenant 7e, hein, seulement de la Liga.
Et le réfé évoquait cette équipe du Barça qui doit aussi un petit peu gérer ses efforts, donc il y a plusieurs tableaux, mais au final, donc il y a une gestion en même temps par période, donc des moments exceptionnels du Barça, et d'autrement, vous avez utilisé le terme de clinique. Effectivement, il y a des moments où il y a une certaine efficacité, et puis après on est dans la gestion, on est tranquille, les gars, pas besoin non plus
comme en Ligue des Champions la semaine dernière
d'avoir tranquille. Des efforts, de faire des efforts affolants, comme contre l'AS Rome, effectivement. Et c'est là où c'est épatant, c'est que Barcelone sait clairement faire les deux, où il y a un moment où on pensait que c'était que dans la position de balle, et ensuite il fallait avoir ces occasions, plein de cases. Mais non, le Barça peut être aussi tranquille, et c'est ça qui est aussi effrayant.
Voilà pour la Liga.
Radio Foot International.
Olivier Pron.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Foot International, avec autour de cette table Salim Bongali, vous venez de l'entendre, le réfé, Marc Libra et Freddy Koula qui a fini par arriver.
On précise, Salim Bongali a eu virgule, ensuite le réfé, c'est pas moi le réfé. Hein, on précise.
Je pense que nos auditeurs ont compris.
Voilà.
D'autant plus qu'on vient de parler de la Liga. Parlons du prix Marc-Vivien Foé, le prix RFI France 24 du meilleur joueur africain de Ligue 1, 10e édition. La succession de Jean-Michel Seri donc est officiellement lancée. RFI, les noms des finalistes ont été dévoilés aujourd'hui. Le nom de l'élu le sera le 14 mai, lundi 14 mai. Vous les avez désignés, ces 13 finalistes, avec David Kalfa, en passant la Ligue 1 au crible. Alors, qui sont-ils ?
Bah écoutez, c'est une liste qui reflète la richesse de la présence africaine en Ligue 1, parce qu'on a une centaine de joueurs. Bon, là, on a retenu 13 noms. C'est 11 clubs différents, c'est 9 nationalités, donc vraiment on a quelque chose de très riche. Alors on a un tenant du titre, puisque c'est Jean-Michel Seri, donc lauréat 2017. Après on a des joueurs dans presque tous les grands clubs qui disputent les places d'honneur en Ligue 1, sauf le PSG qui n'a pas d'Africain malheureusement. Donc on a Keita Baldé à Monaco, actuellement deuxième du championnat. Bertrand Traoré, les Burkinabés à Lyon.
On a qui a marqué son 8e but de la saison hier.
André Sambo Anguissa, Camerounais à Marseille. On a Wabi Kazri, Tunisien, et Amari Traoré, Malien à Rennes. Mais on a aussi plein de joueurs qui sont dans des clubs moins en lumière. On a Max Gradel, l'Ivoirien à Toulouse. On a Toko Ekambi, car Toko Ekambi, les Camerounais à Angers, qui est par ailleurs quatrième meilleur buteur actuellement de Ligue 1. Gaël Kakuta, RD Congolais, et Moussa Konaté, les Sénégalais à Amiens. On a les Capverdiens, Julio Tavares à Dijon.
C'est la première fois qu'il y a un Capverdien dans la liste des finalistes. Ouais.
Absolument, vous avez bien noté. Nicolas Pépé, l'Ivoirien à Lille, et les Togolais Mathieu Dossévi à Metz. Donc voilà, c'est une belle liste.
Je pense qui confirme donc que le Gabon est au fond du trou.
Il n'y a pas le Gabon, mais c'est surtout... Bon, pour revenir sur... Parce que je sens que mes amis burkinabés vont se fâcher. Il a mis 8 buts en championnat, mais 13 buts, toutes compétitions confondues, Bertrand Traoré, qui est un phénomène du point de vue du talent. Et il est en année d'apprentissage, mais il a de belles statistiques notamment.
Alors justement, on a entendu le nom de ces 13 finalistes. On connaîtra le podium d'ici une grosse quinzaine de jours, 3 semaines.
D'ailleurs,
les
auditeurs peuvent participer à un concours organisé à cet effet.
Comment font-ils?
Il faut qu'ils devinent le podium. Quoi.
Mais après, ils nous appellent, Guillaume Ploquin, un standard.
Il
m'appelle au téléphone. Annie Gastier, peut-être personnellement, répond de chez elle au milieu de
la dame qui répond.
Mais bien sûr.
Standard.
Il y a un site. Tout est prêt. Là, il faut bien appuyer sur le bon bouton.
Sur la page RFI Afrique Foot, on peut trouver.
Il faut être un peu zic, mais bon, pas beaucoup.
Donc moi, je vais vous envoyer un courrier par la poste. Ce sera mieux. Moi qui ne suis pas geek.
Les gagnants, qu'est-ce que
cette liste? Cette liste
est un porquerolles.
Olivier,
avec Marc Libra et moi-même.
Parfaitement. Peut être content quand même, parce que la liste reçoit quand même pas mal de, j'en ai discuté avec pas mal d'Africains, des confrères et pas mal de gens sur les réseaux. Ça reflète à peu près, en gros, ce qu'il y a comme crème du football africain en ce moment.
Il manque un gardien, mais bon.
Il manque un gardien. Il
aurait pu avoir défenseur, pas d'Algérien.
Si Kofi ne s'était pas trouvé ce week-end, mais.
Pas d'Algérien, pas de Marocain, pas de Gabonais, mais ça c'était pour la blague. C'est vrai. Bon, vous avez entendu cette liste? Un ou deux favoris chacun?
C'est vrai que notamment alors Bertrand Traoré, capable d'irrégularité, capable parfois d'être un peu moins bon et d'être très au-dessus par moment avec l'Olympique Lyonnais. Tout de même, si Lyon on est là à la troisième place, c'est quand même parce qu'il est là aussi. Puis on parlait de Karl Toko Ekambi. Alors certes, il est dans un club moindre, le SCO d'Angers, mais cette saison est exceptionnelle pour lui. En Ligue 1, j'ai bien revérifié, j'avais un doute, c'est bel et bien 17 buts marqués.
17 buts, 4 passes décisives.
17 buts.
Avec Angers. On rappelle qu'avec, c'est avec Angers.
Je rappelle tous les grands noms quand même offensifs qu'on a en France aujourd'hui, les Cavani, Neymar, même s'il est blessé, Falcao, et on pourrait continuer comme ça longtemps, et ben il est au niveau ou à un peine en dessous de ces grands noms-là, sinon il est au-dessus de tous les autres. C'est épatant ce qu'il fait.
Il est, alors que la saison n'est pas finie, déjà 10 buts au-dessus de son total de la saison passée.
Salim, pour ajouter à ce que Salim dit, pour montrer la grandeur de Karl Toko Ekambi, notamment les Camerounais doivent être contents, c'est le pourcentage de le nombre de buts qu'il a marqué. 46% des buts de son équipe, c'est énorme. C'est meilleur que tous les autres derrière. Et justement, il fait une énorme saison. Et d'ailleurs, on sera pas étonné de voir que son prix va exploser à la fin de la saison. On est déjà sûr d'ailleurs qu'il va partir avec peut-être un prix record en matière de transfert pour le SCO Angers.
Marc, votre avis dans cette liste?
Toko Ekambi, qui pour moi est une référence aujourd'hui sur la saison, il a été très bon. C'est vraiment un attaquant de pointe, c'est un vrai neuf. Il a encore marqué ce week-end un but hors jeu. Bon, il aurait pu faire le doublé malheureusement, mais voilà, c'est pour moi ça reste un joueur qui est passé par le niveau national, sorti un petit peu sur le tard. C'était le PFC, il me semble. Ensuite c'est Sochaux, et on se rend compte qu'aujourd'hui, la saison passée, rappelez-vous Angers, il y a beaucoup de joueurs comme Diop qui s'en vont, qui quittent le club, ils se retrouvent un petit peu seuls, et il aggrave ses stats, il continue sur des stats très impressionnantes. Je sais que Marseille s'intéresse beaucoup à lui, il y a pas mal de clubs de Ligue 1. Et après, est-ce que on va pouvoir le laisser travailler tranquillement? Est-ce que lui a envie de continuer à travailler sereinement, peut-être en Ligue 1, dans un club un petit peu plus huppé, parce qu'il faut pas qu'il se crame. Il a du talent. Moi, je suis fan aussi de Nicolas Pépé, mais cette saison, malheureusement, ça s'est très mal passé.
Oui, en plus, après, avec le club, ça aide pas.
Avec le club, ça aide pas, mais après, Bertrand Traoré, les intermittents du spectacle, moi, j'ai beaucoup de mal. Voilà, c'est le football, c'est du voilà, c'est de la première journée à la 38e.
On a aussi des joueurs qui viennent des championnats étrangers, qui comme Keita Baldé, Gaël Kakuta, comme Boabi Kasri, etc. Des joueurs qui sont revenus en France ou qui sont arrivés en France.
Justement, Boabi Kasri, vous n'en parlez pas là spontanément. Ouais, non, pourtant, les stats sont quand même pas mal aussi. Bon, 9 buts, une passe décisive avec Rennes.
Sauf qu'elles sont relativisées ces stats.
Le problème avec Boabi Kasri, c'est qu'il y a 9 cartons jaunes et un rouge. Ça, c'est quand même beaucoup sur une saison.
Il y en a un, pardon, Freddy, qui a marqué, lui, beaucoup moins de buts, mais André Zambo-Anguissa, à un moment donné, et j'ai évoqué Bertrand Traoré, mais certes, c'est un travail de l'ombre, lui, au milieu de terrain. Luis Gustavo l'a, à mon sens, fait grandir aussi, justement, au milieu de terrain, André Zambo-Anguissa, pourrait peut-être mériter sa place sur le podium. Alors, je parle pas de première place, mais si Marseille, là encore, on est là aussi, il le doit aussi ce club en partie au Camerounais, très clairement.
Impossible de ne pas Camerounais, mais justement pour revenir, Zambo, il fait une très très belle saison, même si notamment il marque pas beaucoup de buts d'ailleurs, son entraîneur
a dit
que c'est pas son rôle. Wahbi Kasri aussi fait une excellente saison, souvenez-vous, il était en galère à Sunderland, il est revenu se relancer, il a marqué 9 buts notamment, mais le problème avec ses stats malheureusement, statistiquement, c'est ces 9 buts n'ont rapporté que 4 points à Rennes, mais dans la vivacité, dans la grinta, dans l'envie et l'abnégation, c'est un joueur exceptionnel cette saison tout de même.
C'est vrai qu'on a quand même, pour la première fois depuis quelques années, il y a match. La compétition est très ouverte. On n'a pas une grande star, un grand leader. Quelqu'un, l'année dernière, Jean-Michel Seri, je pense qu'il faisait quasiment l'unanimité. On a eu d'autres années. Cette année, il aura du mal quand même. Ouais, il aura du mal à se succéder à lui-même. On se souvient que Max Alain Gradel était deuxième en 2015. Il avait du mal à comprendre pourquoi. D'ailleurs, il avait fallu lui expliquer que c'était que la Ligue 1 qui comptait et que même s'il avait gagné la CAN, eh ben, André Ayew avait été meilleur que lui sur la saison avec Marseille. Voilà, donc a priori, si je vous entends bien, on a l'impression que Karl Toko Ekambi part avec une longueur d'avance. Et
forcément, on a toujours, vous savez, inconsciemment, voire consciemment, derrière la prime à l'attaque, vous allez me dire, la saison dernière, c'était pas le cas avec Jean-Michel Seri, mais bon, les chiffres qu'on vient d'évoquer, 17 buts avec le SCO, SCO a des possibilités clairement de se maintenir cette saison, j'évoque à chaque fois, j'utilise ce terme, grâce à, mais clairement, Karl Toko Ekambi est bel et bien là. Ces 17 buts, il prouve surtout son progrès constant, en fait, saison après saison. C'est ça aussi qui est épatant. C'est un joueur qui est en constant progrès depuis plusieurs saisons. Il y a d'autres joueurs, alors Wahbi Kasri, à un moment donné, on l'avait perdu à Sunderland, justement, il était en régression. Là, il semble revenir.
Fait une très bonne saison.
Alors, on n'est pas là pour récompenser les précédentes saisons, mais en tout cas, le progrès est là et c'est aussi ce qu'il faut saluer avec.
7 buts de la saison dernière, 17 buts cette année déjà, c'est pas
mal. Après, on a vu avec des prix comme le Ballon d'Or, que c'est pas toujours la performance personnelle qui compte, aussi, que la performance collective pèse souvent aussi beaucoup dans les choix de certains jurés, et donc ça peut brouiller un peu les...
D'ailleurs, dans le choix de certains jurés, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même toujours les mêmes qui gagnent le Ballon d'Or, et c'est d'abord une récompense individuelle. On se souvient, il y a quelques années, quand Franck Ribéry avait tout gagné avec le Bayern, il a été quand même troisième du Ballon d'Or, et il a mis 2-3 ans à s'en remettre.
Si vous avez ce week-end, je sais pas, Nicolas Pépé qui fait un quadruplé, bon, rêvons un peu.
Ça serait bien Lille, en tout cas, ça c'est sûr.
Face à Guingamp, ça pourrait frapper un peu.
Mon côté, ça pourrait bouger. Non, mais c'est important ce qu'Olivier a dit, notamment sur les critères. Malheureusement, donc, pour les gens, quelqu'un comme Bertrand Traoré, qui a plutôt brillé en Europa League, malheureusement, ces stats-là ne vont pas forcément compter. On regardera son rendement en Ligue 1, ce qui est, du point de vue comparable, n'est pas à son avantage vis-à-vis de Karl Toko Ekambi qui a été...
Ce qui est à son avantage, c'est qu'il a 22 ans, Bertrand Traoré, qu'on peut espérer qu'il reste une ou deux saisons de plus, et là, il aura toutes ses chances, parce que lui aussi fait une très bonne saison. C'est resserré, voilà, il y a match, mais sans doute une petite longueur d'avance. Je le disais tout à l'heure, ni Algériens, ni Marocains, les Marocains, ils ont trusté certains prix, on se souvient de Marouane Chamakh, notamment, Younes Belhanda. Là, on les voit plus dans notre championnat.
Peut-être que beaucoup des joueurs qui sont en vue dans ces équipes-là sont plutôt dans d'autres pays comme les Pays-Bas où on voit beaucoup de Marocains ou l'Angleterre où on voit certains joueurs algériens ou en Italie ou en Espagne, donc c'est vrai qu'ils sont moins présents en France par rapport à une autre époque.
Le Nantais Guillaume Ploquin nous parle de Yacine Bamou, mais c'est pour blaguer.
Effectivement. Non, mais c'est vrai, en plus c'est étonnant de voir qu'il n'y a pas de présence marocaine une année où le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde. On ne voit pas effectivement de Marocains, mais c'est vrai que
c'est un collectif,
mais d'une part. Et puis, les plus grands joueurs marocains n'évoluent pas forcément en France. El Khelaifi l'a très bien dit, ils évoluent surtout à l'étranger, dans les championnats Belgique, Pays-Bas et autres, moins en France en ce moment. Et puis les Algériens, alors déjà qu'on a dans, on va dire, l'imaginaire collectif, cette élimination piteuse lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'y a pas d'Algériens, mis à part Riyad Mahrez évidemment, qui aujourd'hui dégage, on va dire, une certaine aisance, et les grands Algériens ne sont plus en France au final.
Les grands Algériens ne sont plus en France. Non, mais c'est vrai, il va y avoir une sacrée bagarre. On rappelle quand même, Réfé, comment tout cela va se décider. 95 votants, c'est ça?
Oui, à peu près une centaine des votants. Alors, il y a
des journalistes,
il y a les consultants.
Je remercie El Khelaifi de m'avoir
tous ceux
mis
qui
dedans.
Sont autour de la table, évidemment, tous les consultants
tous
de
les
Radio
consultants
Foot,
Radio Foot.
Les journalistes du service des sports de RFI, de France 24, mais aussi il y a les journalistes qui travaillent le plus sur le foot africain, sur des sites spécialisés, et puis dans les chaînes des radio, des télévisions, dans la presse écrite. Tous ceux qui suivent de façon régulière la Ligue 1 sont invités également à se joindre à nous, et ce qui fait un vote très, très riche et très varié, et ce qui permet d'avoir parfois des visions qui sont différentes, parce que tout le monde ne voit pas la performance africaine de la même manière selon qu'on est à Dijon ou à Toulouse ou à Paris, et voilà.
Ou à West Ham.
Ils seront concernés. Vous avez déjà reçu un coup de fil aujourd'hui, parce qu'on a tous reçu le mail, hein, la procédure envoyée par le Réfé nominativement. Est-ce qu'on vous avez déjà reçu un ou deux coups de fil de gens qui disent comment vous avez oublié un tel, comment, quel scandale?
Bah, il y a toujours des gens qui disent, mais c'est un peu le but de ces genres de concours.
En général,
aussi,
c'est Hervé Penaud, c'est ça. Balançons un peu.
c'est toujours intéressant de quand on fait un concours d'avoir des avis divergents. On le voit quand il y a la liste des finalistes pour le Ballon d'Or. Il y en a toujours qui s'émeuvent, pourquoi il n'y a pas Busquets et on a mis Casemiro ou vice-versa, c'est donc qu'on aime plus une équipe qu'une autre, voire parfois quand on suit la Première Ligue, on estime qu'elle n'est pas assez représentée, alors que pour certains, c'est le meilleur championnat du monde. Voilà.
Tout le monde, non, c'est vrai. On rappelle que parmi ces 13 finalistes, il y a deux Camerounais, deux Sénégalais, un Burkinabé, un Capverdien, c'est la première fois, un Congolais, un Malien, un Togolais et un Tunisien. Voilà la prochaine étape. Dans 3 semaines, on l'a dit, début mai, un tiercé.
Disons que là, il y a podium. Les jurys qui vont travailler. Après, on va compter les votes et on va signaler un peu comme on le fait pour le Ballon d'Or à France Football. On va annoncer quels sont les finalistes et puis on va connaître le vainqueur le 14 mai. Dans Radio Foot, il sera là ce jour-là.
J'ai le droit d'être dithyrambique vis-à-vis de ce prix Marc-Vivien Fauré.
Ah ben, ne vous gênez pas, vous êtes en retard, vous pouvez bien vous rattraper.
J'apprends ce que c'est que la France et les transports. Ce qui se passe, en fait, avec ce prix Marc-Vivien Fauré, pour avoir été sur le continent pendant qu'il y avait cette élection-là, il y a une vraie considération de plus en plus, ça fait déjà bientôt 10 ans que ça existe, entre guillemets, c'est pas l'équivalent du meilleur joueur africain de l'année, mais ça a une énorme valeur pour les joueurs africains. Je me souviens, l'année Aubameyang l'a eu notamment. Ouais. Il y a eu une vraie célébration. Il y a pas eu une grande fête comme lors de son titre de meilleur joueur africain, mais il y a eu une vraie émotion chez les gens en disant ouais, fierté nationale, etc. Donc
bah, il suffit de voir le palmarès. Ça, Gervinho 2010-2011, Belinda 2012, Aubameyang 2013, Enyama 2014, André Ayew 2015, Boufal 2016 et Jean-Michel série 2017.
Une belle consécration.
C'est quand même pas mal. Hein.
C'est pas les plus mauvais.
Voilà pour cette première étape dans le prix Marc-Vivien Fauré. Il est l'heure, mesdames, messieurs, de dire sayonara à l'île d'Ixan. Tester votre culture, bande originale de quel film, mesdames, messieurs?
James Bond.
Ouais. Marc Libra. Ouais, mais Marc Libra, forcément, il connaît Porquerolles, Marc Libra. Il va me pointer et tout. Il connaît James Bond et tout.
C'est ce que c'est qu'un pointu.
Lequel de James Bond?
You Only Live Twice. On ne vit que deux fois. Sean Connery est déjà quelques cheveux, enfin bref, un postiche.
Un peu comme vous, quoi.
Pas encore. Ça viendra. Et pourquoi Only Live Twice? On ne vit que deux fois. En gros, ça ne vous arrive que deux fois. Bah oui, Coach Vahid, ça vous est arrivé une deuxième fois. Et on espère vraiment, vraiment, que ça ne vous arrivera plus. Mais après la Côte d'Ivoire en 2010, qu'il avait qualifié pour le mondial et pour laquelle il avait été salement viré, là encore, pour un improbable Suédois au résultat franchement contestable, Sven-Göran Eriksson, on ne sait même pas où il est passé celui-là. Ensuite, il y a eu 2014, il qualifie l'Algérie et il est un très brillant huitième de finaliste. En 2015, il s'embarque au Japon avec notamment dans ses valises un ami de Radio Foot, Jackie Bonnevet, auquel on pense particulièrement aussi aujourd'hui. Et ben voilà, ce week-end, contre toute attente, alors qu'il a qualifié les Samouraïs Blue pour leur sixième Coupe du Monde de rang, une équipe qui jouera dans un groupe H très ouvert, où il y a peut-être quelque chose à faire avec la Colombie, le Sénégal, coucou nos amis sénégalais, Aliou Cissé notamment, et Habib Bey, tiens pourquoi pas, même s'il jouera pas cette fois-là, et puis il y a la Pologne. Bref, tout allait bien, et puis patatras, ce week-end, entrevue à Tokyo avec le président de la fédération japonaise, et boum, il est viré, et franchement, personne ne l'avait vu venir ce coup-là. En tout cas, pas lui, il paraît qu'il est totalement prostré, rentré chez lui à Lille, dans le week-end, abasourdi, nous dit-on.
Alors, effectivement, je n'ai pas eu Vahid Elodzic récemment, donc je ne sais pas comment il l'est. Mais
alors, moi, j'ai eu un échange très bref ce matin, à 6h du matin, pour tout vous dire, avec Jackie Bonnevet, et ça a été très bref, parce que je pense qu'il en a gros sur la patate, sans Jackie, vraiment.
Juste, il faut rappeler quand même, alors là où je suis pas totalement d'accord avec vous, c'est par rapport au côté surprenant que vous évoquez avec moi, et avec nous, il y a quand même certains joueurs qui étaient les stars, hein, je parle de Kagawa, qui avaient été un petit peu, on va dire, agacé entre guillemets par certaines méthodes appliquées ou
il est connu pour ça.
Ouais, qui ont tenté d'être appliquées par
Okazaki, Kagawa,
notamment par Vahid Elodzic. Et c'est vrai que ces stars-là, ben, forcément, sont très attendues là-bas et sont très écoutées. Et si vous n'avez pas ces stars-là dans la poche, ben, vous vous mettez quelques bâtons dans les roues. Alors après, Vahid a réussi à obtenir la qualification, évidemment. Là, il y a eu récemment la trêve internationale avec un match nul face au Mali, une défaite face à l'Ukraine. Bref, vous avez vu ces petites gouttes qui ont rempli ce vase et qui ont fait que ce vase a débordé finalement.
On dit effectivement que ces deux matchs-là ont ébranlé. C'est Kozo Tashima, le président de la fédération japonaise, qui dit ont ébranlé la confiance et la communication de Vahid. Vous en pensez quoi, Marc?
Non, mais ce qui est dommage, c'est que ça ne sert pas à grand chose de perdre un coach à ce moment-là.
On est à deux mois et demi, hein, de la
Coupe du Monde. Qui va faire quoi? Qui va reprendre quoi?
Alors, je vais vous le dire, je retrouve le nom. Il s'appelle Akira Nishino, entraîneur en Junior League, la ligue japonaise, et il était l'entraîneur de l'équipe au JO de 96, hein. C'était donc il y a 22 ans.
Ça me manque. Malheureusement, ça manque de professionnalisme. Et par le passé, on a pu voir que ce genre d'exclusion à ce moment-là ne sert pas à grand-chose. Et c'est vraiment. Après, je connais un petit peu le personnage. C'est vrai qu'il est très dur. Hein. Il faut y aller. C'est dur, mais c'est le patron, c'est l'entraîneur. Il faut écouter. Et donc, si les joueurs veulent pas se plier, certains joueurs partent à l'étranger, se plient. Là, s'ils ont pas voulu suivre le coach Vahid, c'est un petit peu dommage.
Et à un moment donné, c'est dur, mais ça a été payant. On l'a vu à travers sa carrière. Et le dernier exemple avec l'Algérie, c'est dur. Et au final, vous faites un parcours.
D'ailleurs, en Algérie, on a vu les tweets de Nabil Djellit qui dit qu'il revienne vite. Ses proches le décrivent abasourdi. Hein. C'est ce qu'on peut lire dans l'article dans France Football que vous pourrez lire demain par la tournure des événements. Alors que le Japon avait terminé en tête du dernier tour des qualifications avec la meilleure attaque, la meilleure défense et que l'entraîneur franco-bosniaque avait mis au point tous les détails de la préparation. On dit aussi, alors ça c'est terrible, que certains sponsors auraient fait pression parce que justement il avait écarté certains joueurs. Il y a un côté un peu africain dans cette formule-là.
Un peu africain, on se souvient le Gabon d'abord, pour rappeler, avant la CAN dernière, ils ont viré l'entraîneur à 3-4 semaines avant la CAN. On a vu ce que ça donnait, il n'y avait pas de cohésion. C'est surtout que c'était un entraîneur qui ne parlait pas la langue. Mais moi ça me fait penser notamment aussi à l'éviction de Carlo Ancelotti, qui malheureusement a perdu sa guerre contre les joueurs qui sont des cadres. Malheureusement, on comprend toute l'importance de certains footballeurs, notamment au Japon, qui sont des vrais idoles, qui ressemblent à des rock'n'roll et qui finalement ont eu la tête du coach Vahid.
Ben, on a une pensée pour lui et encore une fois pour Jackie Bonnevet qui viendra nous en parler dans quelques jours. Pour clore cette émission, un coucou et surtout un joyeux anniversaire à un fan de sport, de boxe, de tennis et de foot en particulier, un ex-gardien de but, admirateur de René Vignal, Jean-Paul Belmondo, à 85 ans aujourd'hui. Et Bébel, on l'aime tous comme on aime même Guillaume Ploquin, bien sûr, et puis Louis Laforgue.
Et comme vous aimez aussi.
À partir de demain, on réaimera la dame aussi, parce qu'elle sera de retour, c'est ainsi. Allez, bonne fin de journée. Appel sur l'actualité.